Je vais essayer maintenant de vous présenter schématiquement un rapide état des lieux sur les PEDT avec quelques indicateurs, une problématisation des enjeux et défis qui vont gérer l'avenir des PEDT et quelques pistes d'évolution et de travail. Mais d'abord, je voudrais vous rappeler les travaux de l'Observatoire qui ont permis de servir de base aux réflexions que je vais vous soumettre. Mais avec une précision, nous avons fait le choix de ne pas retenir dans ces journées, de ne pas revenir dans ces journées sur les dimensions de rythme scolaire, de gestion des horaires, qui, à notre sens, ou sur des questions d'organisation, qui ont trop phagocyté les débats depuis 2012. Et pour nous concentrer sur les questions de sens, d'objectif, de contenu des PEDT, sur les enjeux qualitatifs. Alors, concernant les travaux de l'Observatoire, nous avons d'abord réalisé en 2015 une enquête nationale sur les PEDT auprès des collectivités. C'était les élus locaux ou les responsables de projets qui répondaient, qui s'est déroulée de juillet à octobre 2015. Il est important de préciser les dates parce que ça correspondait au tout début des PEDT. Les premières villes qui se sont lancées avaient une année maximum d'expérience et les autres étaient en train, en fait, ils ont rempli l'enquête quand ils étaient en train de le mettre en place. C'est donc plutôt un point de départ qu'un bilan des PEDT. Alors, nous avons mené par ailleurs plus de 150 entretiens avec tous les types d'acteurs éducatifs sur les années 2015 et 2016, sur plus de 20 territoires de nature différente, de petits villages à grandes villes ou métropoles. Des journées de formation locale ou d'échanges dans l'Ariège, les Landes, la Haute-Savoie, Clermont-Ferrand, Villeurbanne ont été organisées et nous avons mené à la demande d'un certain nombre de collectivités un certain nombre d'études qui étaient en fait des contributions à l'évaluation de leur projet éducatif. Nous sommes en train de développer un certain nombre d'échanges et de coopérations avec par exemple l'Ardèche, le département du Rhône, la ville de Poitiers, et nous avons développé et renouvelé un site de ressources et d'échanges que je vous inviterai encore plus à mobiliser, mais aussi à alimenter. Nous travaillons actuellement sur la construction de deux réseaux de mutualisation et de recherche-action. L'un porte, ça ne vous étonnera pas, vu l'ampleur de cette question et l'actualité par rapport au territoire, portera sur les modalités, les principes, les ressources pour l'évaluation des PEDT, puisque c'est une question, Alexandra vient de nous parler de l'évaluation de Paris, mais Paris, de ce point de vue, est un petit peu à part, mais nous chercherons d'ailleurs à profiter de cette expérience-là et dans l'échange et dans ce réseau. Le second réseau porte sur les coopérations entre écoles et territoires autour de l'école numérique à la demande du ministère, puisque ces coopérations ont beaucoup fonctionné autour des questions de matériel, d'équipement, mais que sont les équipements sans une réflexion approfondie sur les usages et sur les contenus. Je crois qu'on est là un tournant sur cette question. Nous avons produit des rapports annuels pour nos tutelles et participé au comité national de suivi de la réforme des rythmes scolaires, au comité des experts du secteur éducatif du CNFPT et à un certain nombre de colloques, séminaires ou journées de nos réseaux partenaires. Voilà, c'est tous ces travaux, toutes ces rencontres, ces échanges qui alimentent ce que je vais essayer de vous présenter. Avec d'abord quelques résultats bruts de l'enquête 2015, qui a été réalisée, je le rappelle, de juillet à octobre 2015. au début de la mise en place, en fait, pour beaucoup de communes, des PEDT. Cette enquête a rassemblé les réponses de 279 communes, 157, je dirais, en direct, et 11 à travers des communautés de communes qui sont en plein développement. Les réponses viennent de 40 départements et 10 régions et portent sur 9% de la population française. Voilà quelques éléments de représentativité de l'échantillon. Je ferai d'abord une remarque méthodologique sur cette question de représentativité, car où vous vous basez sur le nombre de communes et dans ce cas-là, vous surreprésentez le rural par rapport à sa part dans la population. Et si vous prenez le critère population, c'est l'inverse. Vous négligez le rural et vous surreprésentez l'urbain. Nous avons un mixte dans notre échantillon qui vaut ce qui vaut, qui n'est pas parfait par rapport aux critères de l'INSEE, je le dis tout de suite, en termes de rigueur scientifique, mais qui permet à la fois de faire apparaître les réalités du rural et de l'urbain en même temps. Ils vont donner ces résultats une tendance sans être une photographie exacte et encore moins un bilan. Alors, premier indicateur qui a été souvent posé, la fréquentation du nouveau périscolaire, des 3 heures nouvelles de la réforme. Eh bien, cela nous donne une participation de 67% des enfants en moyenne à ces 3 heures, c'est-à-dire plus de 2/3 des enfants, avec un petit décalage entre maternelle 58% et élémentaire 69%. On passe ainsi d'un accueil limité, puisque toutes les enquêtes, je dirais parcellaires, puisqu'on n'a pas d'état des lieux exact du périscolaire antérieur, mais les enquêtes des réseaux de l'ONDEV, des réseaux d'élus locaux, donnaient en règle générale une moyenne inférieure à 30%, même s'il y a des villes où il y avait beaucoup plus d'enfants qui fréquentaient le périscolaire. En moyenne, on était en dessous de 30%. Donc on a là un changement de nature du fait même de la massification de la fréquentation. On relève que, pour l'essentiel, les PEDT portent en termes de tranche d'âge des enfants sur les 3-11 ans. Ce n'est pas une surprise, c'est-à-dire sur l'école primaire. Quand je dis l'école primaire, ce n'est pas seulement le temps scolaire, bien sûr, mais aussi le temps périscolaire. Et on le voit bien d'ailleurs, 89% des réponses à notre enquête assimilaient le PEDT aux 3 heures nouvelles de périscolaire de la réforme, 54% l'ensemble du périscolaire. Donc c'est une caractéristique de ces PEDT au début de leur vie. Même si les PEDT, prenant en compte le temps scolaire 32% et extrascolaire 41%, ne sont pas négligeables et montrent qu'on est bien là sur une amorce d'approche globale, même s'il n'est pas généralisé aujourd'hui. Alors, autre question qui a fait débat, la question des taux d'encadrement adaptés pour les accueils de loisirs. Eh bien, l'enquête montre, là c'est une réponse qualitative, que la grande majorité des réponses fait référence à les taux intermédiaires, 1 pour 18 en élémentaire et 1 pour 14 en maternelle, et qu'il n'y a pas de changement de taux d'encadrement sur les anciens accueils de loisirs pour les communes qui étaient avant en ALSH. Ce qui signifie que la généralisation des PEDT semblerait s'accompagner d'une amélioration des taux d'encadrement du périscolaire pour une grande majorité, même si je sais que ces taux intermédiaires font débat, en particulier dans les réseaux d'éducation populaire. Autre indicateur brut, 79% des réponses à la question sur les coûts de la réforme donnent des réponses entre 80 et 300 euros par enfant, avec une moyenne à 192 euros par enfant et par an. On sait que l'aide de l'État va de 50 à 90 euros par enfant scolarisé et que les prestations de la CAF en moyenne sont de 50 euros par enfant. Donc au total, on a un accompagnement des communes de l'ordre de 100 à 140 euros par enfant et par an par rapport à un coût moyen de 192 euros. Cet élément fait encore polémique. Je vous promets, c'est la dernière fois que je parlerai finance dans ces journées. Autre chiffre, c'est la question de la gratuité qui a aussi animé les débats. 42% des communes utilisent partiellement ou totalement la gratuité sur le périscolaire. Mais je voudrais insister sur le fait qu'à travers les questions qualitatives qui accompagnaient sur les politiques tarifaires, la question de la gratuité est loin de résumer la question de l'accessibilité sociale aux activités périscolaires. Ça mériterait d'ailleurs des études plus approfondies sur le travail qui reste à faire sur ces questions d'accessibilité, même si on peut rendre hommage au travail de milliers de communes qui ont dû effectivement mettre en place pour la plupart de nouvelles activités par rapport à ce qui était leur réalité antérieure. On sait que la question des coordinateurs est une question importante. Eh bien, 60% des collectivités en septembre-octobre 2015 avaient un coordinateur de projet éducatif. Ça montre là une certaine disparité d'organisation entre les territoires. Et on voit là qu'il y a une inégalité entre le rural et l'urbain, puisque seulement 43% des communes rurales ont un coordinateur, et pour beaucoup à travers les communautés de communes. Donc voilà, c'est une autre caractéristique de cet état des lieux au début de la mise en place des PEDT. La question des diagnostics, on le sait, est une question importante. Eh bien, 55%, alors c'est les réponses au questionnaire, 55% des communes annoncent avoir réalisé un diagnostic initial de leur politique éducative des activités périscolaires qu'ils pouvaient mettre en place. C'est à la fois intéressant. On peut noter un écart, là encore, entre rural et urbain, puisque c'est 42% pour le rural et ça monte à 80% pour les communes qui avaient un projet éducatif local antérieur au PEDT. Mais on sait que c'est l'existence même de coordinateurs de projets est un des éléments significatif de formalisation de ces projets. Autre question importante qui était évoquée tout à l'heure par Alexandra Cordebar, 69%, et là on avoue avoir une surprise sur ces réponses, 69% des communes annoncent avoir mené une concertation préalable au PEDT. Sans doute plusieurs éléments peuvent expliquer cette réponse. Nous attendions honnêtement, en posant cette question, à avoir 99% de réponses favorables. Eh bien non, il y a quand même des communes qui ont répondu qui n'avaient pas mené de concertation. En même temps, 69%, 70% des communes, c'est énorme du point de vue de la population concernée et de l'état antérieur du débat public sur les questions d'éducation. Il faut toujours arriver à mesurer l'ensemble de ces... Il est plus intéressant de voir que quand on interroge sur quels étaient les objectifs de ces concertations, on voit bien que c'est les questions d'information et de communication qui prennent le dessus, et que lorsqu'on évoque la possibilité de mobiliser une expertise d'usage, c'est-à-dire d'avoir dans la une concertation qui contribue à la co-construction des projets, seulement 31% des communes l'envisagent ou l'ont envisagé, et 48% pour consulter sur les perspectives, ce qui est quand même un élément évidemment important de la co-construction. Alors, il ne faut pas fétichiser ces chiffres, ça donne simplement un état de questionnement sur sur ces thèmes-là. Et quand on pose la question en ce qui concerne les parents, quelles ont été les modalités d'association des parents, on voit que principalement c'est la modalité de la réunion d'information qui a été mobilisée, parfois de mobilisation de questionnaires, mais lorsqu'on pose la question de l'association des parents à une évaluation participative, on a le plus faible résultat, 26%. Autre élément que je dans ces résultats bruts, il apparaît avec les résultats de l'enquête, mais aussi avec les rapports du Comité national de suivi de la réforme des rythmes, qu'il y a un vrai besoin de réflexion et de travail sur trois points qui ont été évoqués tout à l'heure par Alexandra Kantbar: les transitions entre temps scolaire et périscolaire dans la journée de l'enfant, sur toutes les transitions entre petite enfance et école maternelle à l'entrée au CP ou en sixième, sur l'articulation des PDT avec les politiques jeunesse ou petite enfance dans l'esprit d'un projet éducatif global. Ces questions des transitions ont été, en particulier au début de la réforme des rythmes, à la source de très nombreuses difficultés. Il y a déjà des évolutions, mais ça reste une question encore très vive. On peut aussi noter dans les résultats le fait que l'adaptation du projet éducatif aux enfants d'école maternelle est en cours, mais doit encore être travaillée. Elle n'est pas généralisée, aussi bien en ce qui concerne le choix des types d'activités, de leur adaptation à l'âge des enfants, la gestion de la sieste et des temps calmes qui a beaucoup progressé, mais qui reste encore une question à travailler, la réflexion sur les horaires spécifiques et l'adaptation à leur âge, et là j'ai dit que je ne rentrerai pas dans le détail des questions d'horaire, mais aussi sur la place des professionnels particuliers que sont les ATSEM et de la coopération entre tous les professionnels qui sont au contact d'enfants jeunes comme ceux de l'école maternelle. Enfin, dernière question brute qui apparaît dans les réponses et que je voulais mettre en évidence, c'est que la mise en œuvre de la réforme des rythmes puis des PEDT a interrogé les transversalités à l'intérieur des collectivités. Il n'y avait pas forcément autant d'habitude que ça de travail entre les directions de l'éducation, du sport, de la culture, de la politique de la ville, y compris dans les grandes villes, ou peut-être surtout dans les grandes villes, je ne sais pas. Et c'est une véritable question que le PEDT a fait émerger pour répondre tout simplement concrètement à la mise en place des projets. Alors, au-delà de ces quelques chiffres bruts, de ces résultats de l'enquête, quelques mots sur le contexte de la généralisation des PEDT. D'abord, on peut relever qu'on est passé rapidement, dans les débats publics initiaux de la réforme, du temps scolaire à celle du périscolaire. La réforme des rythmes a précédé les PEDT et marqué les représentations, au point où, je le relevais tout à l'heure, les PEDT sont assimilés largement à un projet périscolaire. Or, on le sait, ces objectifs sont beaucoup plus larges, selon la loi de refondation et la circulaire de 2014. Et on a aussi bien réalisé collectivement à ce moment-là qu'au-delà des réformes et de leur calendrier, il y avait un vrai besoin social d'une offre périscolaire renforcée de qualité sur tous les territoires, même si les polémiques sur les horaires ont pu prendre le dessus au départ de ces réformes. La généralisation des PEDT à la rentrée 2015 à plus de 90% des communes, fait qu'à ce moment-là, on est sorti de l'expérimental pour passer à une véritable politique publique. Et la question des missions de service public éducatif s'est posée au-delà du temps scolaire pour la première fois à l'échelle du pays. On a débouché sur une reconnaissance véritable dans les textes et dans les faits de l'action éducative des communes, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et on peut noter que tout au long de l'été 2016, et ces derniers mois encore, la semaine dernière encore, des textes sont sortis pour inscrire dans la durée, pérenniser les mesures d'accompagnement de l'État et de la CNAF. Vous trouverez d'ailleurs sur la clé USB de votre pochette le dernier texte sur les PEDT qui vient de sortir. Alors, on a pu constater que des débats nouveaux ont pu se développer sur l'ensemble des territoires, mais au moment de la réforme des rites, c'est-à-dire en 2013-2014. C'était une nouveauté pour beaucoup de ces territoires de retrouver tous les acteurs éducatifs autour d'une même table. Ça nous a été répété quasiment dans tous les entretiens qu'on a pu avoir sur les territoires. Même si, et Paris en sait quelque chose, ces débats ont pu être animés, voire même, je crois qu'on peut le dire, conflictuels. Mais pour les PEDT, dans un second temps, la construction des PEDT, elle, c'est-à-dire sur la fin des années 2014-2015, n'a pas été toujours accompagnée de la même intensité de concertation. Et les chiffres que je vous ai donnés le reflètent un petit peu, car les PEDT ont pu être abordés comme la simple formalisation du nouveau périscolaire sur un certain nombre de territoires. Le développement de la concertation est donc un des enjeux forts de la phase actuelle, et l'évaluation des PEDT qui se développe partout au bout des 3 années est sans doute l'occasion à ne pas rater pour répondre à ce défi. Il y a eu dans beaucoup de communes un passage de simple garderie aux activités périscolaires à un nouveau temps éducatif spécifique, avec en particulier une prise en compte nouvelle de la pause méridienne comme temps éducatif. Et temps éducatif d'ailleurs qui posait problème dans la plupart des territoires. C'est une question qui agitait les réseaux depuis des années. On est passé aussi d'un accès limité au périscolaire et à l'extrascolaire du mercredi, je vous donnais les chiffres tout à l'heure, 30%, à au moins 3 heures hebdomadaires pour 2/3 des enfants en moyenne partout. Et ça ouvre donc, je le répète, la voie à une véritable politique publique. Et le triplement des déclarations en accueil périscolaire offre aussi des garanties nouvelles dans la majorité des cas, même si ça se fait à travers des taux intermédiaires. Si on prend en compte la situation de la très grande majorité, puisqu'il y avait peu de déclarations en accueil de loisirs, on ne dépassait pas, je crois, au niveau national, les 10% sur les champs périscolaires et du mercredi. Le triplement s'accompagne d'un développement d'un certain nombre de garanties en termes de qualification, en termes de taux d'encadrement. Si on se base sur la réalité, on peut dire que là, on a un début de réelle avancée. Enfin, les PEDT ont permis une formalisation des politiques éducatives locales avec une intervention nouvelle d'associations locales, dont en particulier celles relevant de l'éducation populaire, ce qui, on peut le dire, avait pu être un peu en recul sur les 10, 20, 30 dernières années par rapport à des périodes antérieures. Il y a une mobilisation nouvelle sur les territoires des associations comme ressources pour les politiques éducatives locales. Alors, on sait que les territoires sont différents, avec des structures différentes, du rural aux métropoles urbaines, des communes au développement des intercommunalités. On relève des différences nettes entre les communes selon leur secteur géographique. Je vous en ai donné à travers quelques chiffres tout à l'heure un certain nombre d'exemples. Et des différences nettes. Différences aussi selon leur secteur géographique, les expériences initiales de politique éducative locale, l'existence ou pas de projet éducatif local, quelle que soit son appellation, ou l'inscription de ces territoires dans la politique de la ville et ses différents dispositifs. Mais si ces différences sont réelles, On relève en même temps, et ce qui peut apparaître contradictoire, une structuration des PEDT assez identique, avec cette triple filiation autour de la méthodologie de projet, des modèles développés dans le cadre de la politique de la ville ou des expériences antérieures. C'est-à-dire qu'à la fois, les associations locales ne sont pas les mêmes, les sports mobilisés ne sont pas forcément les mêmes sous tous les territoires, pour ne prendre que ces deux exemples, mais en même temps, la démarche suivie est assez homogène et le fruit de ces différentes expériences. On peut analyser aujourd'hui les PEDT comme un processus qui en est à ses débuts, avec des évolutions à favoriser et accompagner. Et d'ailleurs, et tu l'as illustré très bien, Alexandra, tout à l'heure, les PEDT ont déjà évolué depuis leur lancement. Alors, je voudrais aborder quelques défis, tensions ou fragilités, pour reprendre les mots d'Alexandra tout à l'heure, parce qu'au-delà de ces constats et résultats immédiats, les résultats du questionnaire et différents rapports officiels illustrent des contradictions, des tensions, qui vont bien au-delà des seuls enjeux d'organisation et de fonctionnement qui ont pu un peu phagocyter l'attention des équipes sur le terrain. D'abord, on peut noter que c'est l'urgence qui a dominé et qui nous est revenue souvent dans les entretiens, un sentiment d'urgence. Et la question n'est-elle pas aujourd'hui de dépasser l'urgence vécue par les collectivités et les acteurs et de passer de la recherche d'une liste d'activités diversifiées, ce qui revient en premier quand on interroge sur les objectifs des PEDT, de passer à la recherche d'un véritable projet éducatif et de passer de l'organisation à un retour au sens, au travail sur le sens, sur les objectifs, le contenu des actions et des projets. Et en même temps, tu soulignais, Alexandra, se pose la question de l'identité du temps scolaire et de la confrontation des identités professionnelles à travers cela. Quelle réflexion doit-on conduire sur la place et les contenus des loisirs éducatifs? Quel temps calme et temps de repos, par exemple, qui ont eu du mal au départ de la frénésie de recherche d'activité à se faire une place? Quelle construction de parcours éducatifs? On retrouve bien, d'une façon générale, au-delà de Paris, ces questions. Deuxième tension, s'agit-il d'un dispositif de plus ou d'un réel projet éducatif partagé? De multiples dispositifs se sont empilés au fil des années avec le risque identifié par les chercheurs qu'ils perdent le sens de leurs objectifs et s'épuisent. Le rapport du PEDT avec, je n'en reprendrai que quelques-uns et je me contenterai des sigles, les classes, CEJ, CEL, PTEAC, volet éducatif de la politique de la ville, PRE et bien d'autres. Ce rapport du PEDT avec ces dispositifs n'est pas stabilisé aujourd'hui et fait d'ailleurs l'objet d'interprétations très différentes d'un département à l'autre, y compris au niveau des structures de l'État. Le PEDT sera-t-il un dispositif de plus ou sera-t-il un creuset redonnant du sens à la politique éducative des territoriales? Eh bien, cela va dépendre de nous tous, du travail qu'on va pouvoir mener dessus. Et la question se pose de passer d'un projet communal à un projet véritablement territorial, un projet des acteurs du territoire, d'articuler le PEDT et les projets d'école, de collège, d'association, de structures culturelles ou sportives. Troisième défi, la question de l'égalité qui va être abordée dans la plénière, donc je vais être vraiment très très schématique. Les PEDT ont surtout abordé la question de la réduction des inégalités éducatives à travers celle de l'accessibilité à des activités culturelles ou sportives et de leur diversification, et aussi autour de la question de l'offre de tarifs accessibles à tous les enfants. C'est évidemment très loin d'être négligeable et ne peut être sous-estimé, mais ces progrès, d'une part, sont encore à renforcer et ne résument pas l'enjeu de l'égalité. Pouvons-nous réduire l'enjeu de l'égalité pour les PEDT aux seules inégalités scolaires? Comment aborder les spécificités du périscolaire vis-à-vis de cet enjeu? Quelles pratiques professionnelles peuvent y contribuer? Quelles interrogations sur les contenus par rapport à cet enjeu? Comment maîtriser les inégalités territoriales qui existent et prendre toutes les conséquences des inégalités sociales? Ces questions sont naturellement essentielles et concernent tous les temps éducatifs, tous les acteurs, et pas seulement le temps scolaire. Quatrième défi, la question de la concertation aujourd'hui. Je mets nécessité ou démagogie, parce que quand on pose la question dans l'enquête, eh bien, des communes répondent que, par exemple, travailler sur la place de l'enfant et poser la question de leur association, c'est de la démagogie. Donc, quand on en vient à l'écrire dans une réponse à un questionnaire de cette nature, cela montre bien que ces questions, alors qu'elles nous paraissent naturelles, qu'elles apparaissent dans tous les documents, eh bien, elles sont loin de faire consensus dès qu'on rentre sur le fond de la question et sur la profondeur nécessaire et la largeur de la concertation nécessaire. Il y a un travail important à développer de ce point de vue-là. On peut noter un déficit de prise en compte et de travail de cette nécessité pour la réussite éducative de tous les enfants. En premier lieu, avec la place des parents, de tous les parents, y compris les plus éloignés de l'école, je le dis parce que on le verra en atelier, il y a des expériences autour, par exemple, de 1001 territoires qui sont intéressantes, mais qui sont loin d'être généralisées. Il y a un véritable enjeu majeur. Et pour tous les parents, y compris les plus éloignés de l'école, la question est aujourd'hui de les considérer non pas seulement comme usagers, consommateurs du système éducatif, qu'il faudrait mieux informer, mais bien comme acteurs des parcours éducatifs des enfants, comme partenaires dans la co-construction des projets. C'est aussi le cas avec la place des enfants et des jeunes comme acteurs de leur parcours. Alors cette place-là, elle est très peu évoquée dans les PEDT qu'on a pu consulter, alors qu'il existe des expériences qui montrent l'intérêt de cette association, à condition de ne pas s'enfermer dans un copier-coller des modes de représentation des adultes, avec les multiples expériences de conseils communaux, départementaux, voire régionaux d'enfants ou de jeunes, mais qui copient un peu le concept de démocratie représentative des adultes, alors qu'il y a une très grande richesse à mobiliser dans une diversité d'expériences menées en particulier par l'éducation. Plus largement, on peut souligner, on le sait, mais cela va pas de soi sur le terrain. Aucun acteur éducatif ne peut réussir seul. Tous les PEDT comportent une injonction à la cohérence, la coordination, la complémentarité, la continuité, on dit même les 4 C, sans toujours, il faut bien le dire, leur donner un sens et avec une certaine confusion entre modalité et finalité. Finalement, ce ne sont que des modalités de travail et de développement de projets au service de quel objectif éducatif. Je renverrai ce propos aux contributions de Philippe Mérieux et de Sidonie Rancon dans le numéro de diversité de janvier de 2016. En particulier, pour ne prendre qu'un élément, on ne devrait plus parler aujourd'hui de continuité sans évoquer aussi les discontinuités nécessaires. Et avons-nous vraiment la même approche de la complémentarité recherchée? Évidemment, poser la question, c'est y répondre. Aujourd'hui, ça va demander un travail partagé important sur ces questions. Pour quels objectifs partagés? Quelle égalité? Tous les enfants sont-ils éducables? Peuvent-ils tous acquérir le nouveau socle commun? Quel vivre ensemble? Quelle production du commun? C'est pour avancer dans les réponses à ces questions qu'on ne pourra pas échapper aux interrogations sur la coopération éducative, une nouvelle équipe éducative qui est en train d'émerger, le sens nouveau de la communauté éducative et des alliances éducatives nécessaires pour pouvoir avancer sur ces champs-là. Mais il est nécessaire de prendre un peu de recul et de ne pas rester juste sur les enjeux de fonctionnement et de structuration. Alors, pour conclure, quelques hypothèses et pistes de travail. Je vais être très, très, très schématique et je prends le risque d'en soumettre quelques-unes, même si ce n'est pas forcément notre rôle premier. Eh bien, sur l'égalité... Voilà. Sur l'égalité, renforcer les progrès sur l'accessibilité, sur les contenus, peut-être travailler, et je pose la question, est-ce que le nouveau socle commun ne pourrait-il pas être un support, en tout cas de débat, pour les coopérations et les complémentarités recherchées, pour enfin aborder la question des contenus, quelle modification des pratiques professionnelles pour plus et mieux d'égalité. On ne peut être qu'interrogé, je passerai le relais à l'atelier sur ces questions, par exemple, sur les difficultés des ETAPS ou des DUMI, les intervenants musicaux, qui relèvent des collectivités, qui interviennent sur le temps scolaire, qui pourraient être un pivot de cette articulation et qui ont énormément de difficultés à se représenter comme intervenants sur le temps périscolaire. De la même façon, on pourrait interroger les pratiques professionnelles des enseignants sur le travail personnel des élèves, où on se pose plus la question de la communication aux parents que du contenu même des prescriptions qu'ils peuvent faire et de leur utilité en direction des enfants et des familles, pour ne prendre qu'un exemple. Sur pistes et hypothèses de travail aussi, sur le renforcement de l'accompagnement, je dirais pour mieux d'État et des PEDT de qualité. Alors, on y reviendra demain après-midi sur ces questions, mais j'ai là mis quelques pistes autour de la formation, de l'évaluation, de l'accompagnement de tous les territoires. Parce qu'on a pu s'apercevoir dans le questionnaire, même si c'était au début, je le redis, que des territoires ruraux ont pu se sentir un peu loin de l'accompagnement de l'État et des structures. Alors, évidemment, avec les moyens qui sont ceux des directions départementales, à l'évidence. En même temps, il y a eu un travail considérable de réaliser, et je crois qu'il faut en avoir conscience, dans cet accompagnement sur la plupart des départements. Mais il y a des enjeux de formation des professionnels et des bénévoles, de gagner en transversalité dans la mobilisation des composantes de l'État. Par exemple, les PEDT sont très peu articulés avec le volet éducatif de la politique de la ville. C'est un constat avec les PRE. Là, il y a des enjeux importants pour mieux d'État et des PEDT de qualité. La question, pour terminer, de l'évaluation des PEDT, des projets éducatifs et des actions est posée maintenant de façon systématique. Mais derrière ce qui peut être ressenti comme une pression évaluatrice, il y a de nombreux questionnements sur la conception même de l'évaluation, de ses objectifs et de ses modalités. Alors, pourquoi évaluer pour contrôler ou pour améliorer les projets? On ne fait pas la même évaluation selon les objectifs qu'on se donne. Et je crois qu'il y a là les cinq questions qui devraient, je dirais, précéder même toute démarche d'évaluation. Que veut dire évaluer? Pourquoi on évalue? Quels sont les objectifs et parmi eux les plus prioritaires? Sur quoi porte l'évaluation? Comment évaluer et avec qui? Nous proposons d'explorer une réponse à travers l'évaluation participative et formative pour des projets mieux partagés, puisqu'on a bien vu dans les constats que c'était un enjeu essentiel. Enfin, ça ne vous étonnera pas si je pose la question de la montée en compétences par la formation initiale et continue de tous, des enseignants comme des intervenants municipaux, comme des acteurs associatifs, et en particulier le développement de formations partagées. Parce qu'on peut constater aujourd'hui que là où ça se passe, ça porte ses fruits et c'est efficace, qu'on est devant une question de déficit de temps de travail commun et que la formation partagée est un de ces temps communs qu'il est possible de mobiliser pour avancer. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été trop long, mais en même temps, je n'ai bien conscience, très schématique sur des questions que je n'ai
fait qu'effleurer. Et je vais tout de suite passer le relais à Arnaud Tiercelin pour la table ronde.